The left.
Great, thank you.
Oui, la petite vidéo que vous venez de voir à l'instant, en fait, c'était une illustration, un petit peu en lien avec la table ronde que j'entendais juste avant, de ce que le big data et le machine learning permettent, puisque vous l'aurez compris, là, c'est une vidéo qui permet, à partir de la donnée, de contribuer à un dialogue avec des langages différents, puisque c'est le langage des signes et des personnes qui ne le parlent pas forcément, pas nécessairement. Et le big data et le machine learning, c'est aussi de contribuer à cette innovation extrêmement positive, extrêmement au service du progrès. Et donc la question qu'on s'est posée pour ce keynote, c'est effectivement de voir comment on peut à la fois être dans l'innovation grâce à la data et en même temps dans la protection des données. Et c'est vrai que en écoutant la table ronde précédente, j'ai bien le sentiment que, sans répondre à la question de la naïveté, on est au cœur de cet équilibre. Et dans les quelques minutes, les 10 minutes de mon propos, avant que Laurent ne prenne la parole et donne un regard peut-être plus scientifique, certainement plus scientifique que le mien, je voudrais vous donner un point d'équilibre auquel je pense et sur lequel nous travaillons. Si je devais le résumer d'une formule, je dirais qu'on est dans un temps où il faut de l'innovation responsable et de la régulation innovante, où il faut à la fois que les industriels qui utilisent de la donnée, se servent de la donnée, y compris pour des fonctionnalités de cette nature-là, intègrent la question de la privacy, la question de la sécurité dans la conception de leurs produits, dans la conception de leurs outils de production. Et qu'en même temps, du côté des régulateurs, quels qu'ils soient, ça peut être le régulateur sectoriel, on avait la CNIL tout à l'heure, mais ça peut être plus large dans le dialogue entre les États, il y ait des régulations qui prennent en compte ces innovations. Et c'est vraiment cet équilibre qui est de nature à permettre à la fois les progrès que permettent l'accès et l'usage de la data, et en même temps protège les individus, les citoyens, un petit peu ce privacy paradoxe dont vous avez tous entendu parler, qui est à la fois la volonté d'obtenir le maximum de bénéfices des données et le maximum de protection de ces données. Et c'est ce point d'équilibre qu'il faut trouver. Alors, je dirais qu'il y a peut-être 3 dimensions qui permettent d'y parvenir, en tout cas 3 pistes, parce que ce ne peut être que des pistes à cet instant. Il y a une piste qui est plutôt celle du cadre juridique harmonisé, et c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, même s'il y avait des divergences, je ne sais pas si on en reparlera, qui est notamment le cadre européen, puisque vous le savez, vous l'avez entendu, il va y avoir bientôt le projet de règlement pour la protection des données personnelles qui va normalement entrer en vigueur. Il a cet avantage, notamment dans le cadre du grand marché unique numérique, du Digital Single Market, d'harmoniser les règles, et c'est pour ça que c'est un règlement plutôt qu'une directive, donc on devrait avoir un droit harmonisé, ce qui donnera à la fois aux consommateurs, aux citoyens ou aux entreprises qui utilisent des services de cloud, par exemple, de bénéficier des mêmes règles partout dans l'Union européenne, et puis des prestataires d'avoir également un cadre unifié. Et ça, c'est quelque chose de véritablement tout à fait essentiel, parce que c'est l'harmonisation qui donnera un cadre de clarification et de transparence pour les utilisateurs et les prestataires. Il y a une 2e dimension, ça ne vous aura évidemment pas échappé, parce que ça a été dans l'actualité ces dernières semaines et mois, c'est que à la suite de l'annulation du Safe Harbor, qui était cet accord d'équivalence entre l'Europe et les États-Unis sur la protection des données personnelles, vous aurez entendu que le 29 février dernier, donc c'était la semaine dernière, la Commission européenne a rendu public les documents de ce qui va s'appeler non plus le Safe Harbor 2.0, mais le Privacy Shield, donc le bouclier de protection, qui n'est pas encore en vigueur parce qu'il va devoir passer par un processus, étant entendu que le groupe d'article 29, c'est-à-dire qui rassemble les CNIL européennes, va donner un avis, vous en avez parlé. Les États membres vont également, via le processus de comitologie, donner une opinion avant que le collège des commissaires ne prenne sa décision formelle. C'est tout à fait essentiel parce que là aussi, c'est de nature à apaiser et à clarifier le cadre juridique. Il y a un dernier élément sur lequel je voudrais venir à cet instant, et c'est un élément important parce qu'il se trouve que c'est un élément sur lequel nous nous battons aujourd'hui, qui est la protection des données de nos clients. Tout le monde le sait, il y a, dans le cadre des lois et règlements, la possibilité pour un certain nombre d'États, pour les États, dans le cadre d'investigations, d'enquêtes, de demander à accéder à des données qui sont stockées chez les prestataires de cloud. Et il se trouve qu'aujourd'hui, nous sommes en contentieux avec le gouvernement américain. Et j'insiste sur ce point parce que c'est un sujet vraiment important. Il est contemporain de l'actualité autour de la situation d'Apple dans sa relation avec le FBI. Il y a quelques années de cela, nous avons été saisis d'un mandat pour donner accès aux autorités américaines à des données d'un de nos clients qui sont stockées en Europe à Dublin. Et on s'y est opposé. On s'y est opposé non pas au motif que l'investigation n'était pas légitime ou que nous n'étions pas d'accord avec ce que faisaient les autorités de poursuite, ça n'était pas notre sujet. On s'y est opposé parce qu'on a considéré que s'il y avait des saisies de documents de cette nature, ça devait se faire selon les règles judiciaires de coopération internationale. Et on s'y est opposé avec un argument finalement assez simple et qui dépasse d'ailleurs en réalité le numérique, qui est de dire personne n'accepterait que le gouvernement américain ou un autre gouvernement d'ailleurs ne vienne saisir des données au domicile physique de quelqu'un vivant en Europe. Eh bien, selon ce même raisonnement, on a dit à partir du moment où il y a des saisies qui sont hébergées en Europe, eh bien, il ne peut pas y avoir de perquisition ou de saisie de ces données depuis les États-Unis. Il faut le faire, s'il y a une enquête légitime, via la procédure d'obtention d'un mandat dans le cadre d'un traité de coopération judiciaire internationale qui existe d'ailleurs entre l'Irlande et les États-Unis. Et c'est intéressant parce que ce dossier est actuellement en appel aux États-Unis, devant la Cour d'appel de New York. On a été soutenu par plus de 50 organisations, y compris d'ailleurs le gouvernement irlandais, qui, de ce point de vue-là, défend aussi sa souveraineté, par le rapporteur Monsieur Albrecht, qui est le rapporteur du projet de règlement pour la protection des données personnelles, qui a fait un amicus curiae pour dire sa position, qui n'est pas nécessairement de dire « Microsoft a raison », mais qui est de dire « c'est une position de principe qu'il faut défendre pour à la fois la protection des données et la souveraineté des États ». Et encore une fois, ici, le sujet, ce n'est pas d'empêcher qu'il y ait une investigation, c'est de faire en sorte qu'elle se passe dans le cadre des droits fondamentaux et de leur respect. Parce que de l'autre côté, lorsque malheureusement il s'est agi de donner accès à un certain nombre de données suite aux tragiques attentats qui ont lieu sur notre territoire, on a été en situation, dans le cadre des lois et règlements, de les fournir en 45 minutes pendant la nuit, parce qu'il y avait des nécessités d'urgence et que les règles de procédure le permettent, ce qui veut dire que c'est pas la peine de s'affranchir des règles. À partir du moment où on peut, dans le respect des droits et libertés fondamentaux, à la fois permettre la protection de la sécurité publique, de l'ordre public, et protéger la vie privée. Et donc, ce sujet est encore en route. Il est sur le chemin judiciaire. Peut-être qu'il ira jusqu'à la Cour suprême aux États-Unis. Nous verrons. Mais c'est un sujet important parce qu'il est au cœur de cet équilibre innovation et sécurité. Le dernier point, j'en finirai par là pour rester
très,
dans mon temps.
Rapidement.
C'est une dimension vraiment essentielle parce qu'il y a le cadre juridique. Et puis, on a parlé de co-régulation à la fin, ce dialogue permanent entre les pouvoirs publics, les industriels, les acteurs. Et on oublie souvent qu'il y a un outil important qui est celui notamment des normes ISO, qui sont des outils très utiles parce qu'elles sont élaborées en consensus par les États et les organisations et les entreprises. Et j'en donnerai deux exemples et j'en aurai terminé par là. Le premier exemple, c'est la norme 27.018 qui est liée à la privacy dans le cloud et qui est un miroir des textes de protection des données. Et puis une dernière donnée, parce que ça sera vraiment le point conclusion, qui est la 38500, au-delà du nombre, c'est une norme sur la gouvernance des données. Parce que c'est ça qui est tout à fait essentiel dans cette norme, c'est qu'elle renvoie à la responsabilité des organes dirigeants pour s'interroger sur ce qu'elles veulent faire de leurs données, l'importance de leurs données, la manière dont elles veulent les gérer, les structurer, les protéger, ce qui renvoie aussi à la responsabilité des acteurs. Pour le dire autrement, et c'était mon point de départ et ça sera mon mot de conclusion, la question, elle se résoudra par un dialogue permanent entre l'ensemble des institutions parce que c'est à la fois de l'innovation qui prend en compte cette dimension et de la régulation qui prend en compte l'innovation.
Merci beaucoup Laurent Massouli. Si vous voulez ajouter un petit mot très rapide, s'il vous plaît, parce que sinon on ne tient pas les délais.
J'ai combien, 20 secondes Bon, je vais aller très vite de toute façon. Je voulais juste dire un mot avec mon point de vue de chercheur sur ces sujets qu'on a abordés dans la table ronde de sécurité et de vie privée. Donc sur la sécurité et notamment sur les usages de la cryptographie, je voulais évoquer quelques nouvelles possibilités qui ont été rendues possibles, qui ont été développées par nos chercheurs dans un laboratoire de Cambridge, de Microsoft. La première, c'est si vous voulez héberger votre gestion des données chez un fournisseur de services cloud, clairement vous pouvez chiffrer les données avant de les lui envoyer, mais maintenant vous pouvez aussi faire des traitements à la MapReduce, déployer Hadoop, sans faire confiance à l'hébergeur cloud, en ayant juste comme base de sécurité du hardware certifié que Intel a développé et les solutions que nos chercheurs ont mises en œuvre. Donc faire tout son traitement de données chez un hébergeur cloud en ayant sécurisé non seulement le stockage mais aussi l'analytique des données, c'est maintenant possible grâce à ces solutions. Donc là, c'est un scénario très simple où il n'y a aucune fuite des données. Un scénario un peu plus subtil, peut-être, c'est si vous avez un compteur intelligent chez vous, votre conso à l'heure est une donnée potentiellement sensible qui révèle votre comportement, si vous êtes chez vous ou non. Mais il y a une donnée qu'il faut laisser fuiter vers EDF, c'est la donnée qui permet de calculer la facture. Eh bien, des solutions cryptographiques légères existent qui font que la seule information qui fuite chez EDF, c'est le montant de la facture, qui est un calcul compliqué basé sur la donnée horaire et sur les tarifs qui peuvent fluctuer. Donc on voit que la cryptographie permet des scénarios intéressants où toute une partie de la donnée reste dans le domaine crypté et une partie seulement est rendue publique. Pour autant, on sait bien que ça n'épuise pas la question de la privacy, puisque la donnée qu'on rend publique, même si en elle-même n'est pas sensible, elle peut induire une attaque et permettre de deviner quelle donnée sensible l'accompagner. Donc ça, c'est rendu très clair par les scénarios où des données anonymisées ont été rendues publiques et une désanonymisation a été faite qui n'était pas attendue. Donc l'exemple le plus célèbre date d'il y a environ 10 ans, c'était Netflix qui avait publié des données de notes mises par leurs usagers à des films en ayant anonymisé et pensé qu'ils étaient bons du point de vue de la privacy. Et en quelques jours, un chercheur soviétique, Shmatikov, enfin soviétique d'origine russe, a pris les données de la base IMDB, les a mises en corrélation avec les données du prix Netflix et a désanonymisé toutes les données du prix Netflix. Donc on voit bien que même si on a caché la donnée qu'on voulait conserver privée, on n'a pas résolu la question. Alors une approche qui est préconisée par les chercheurs et qui a été mise en avant depuis maintenant un peu plus de 10 ans, donc un peu avant le tollé du prix Netflix, par une chercheuse de Microsoft, Cynthia Dwork, c'est une approche dite de « differential privacy ». Je ne vais pas vous donner de détails techniques, mais l'idée est très simple, c'est un floutage bien dosé des données qu'on rend publiques, le floutage étant calibré pour que l'attaquant qui cherche à deviner ce qu'on a conservé privé aura du mal, il y aura une ambiguïté fondamentale à cause du floutage aléatoire qu'on a fait des données qu'on a rendues publiques. Donc on a des chercheurs dans le labo commun Microsoft INRIA qui exploitent cette technique dans le cadre de la géolocalisation. Vous savez que les browsers, les navigateurs maintenant, ont la possibilité de donner vos coordonnées GPS à des sites web. Eh bien, nos chercheurs ont développé un plugin qui, avant de révéler ces données GPS, les bruite délibérément d'une façon qui préserve votre vie privée. Donc le site web ne va plus pouvoir deviner où vous habitez, mais par contre, il saura que vous habitez dans un rayon de quelques kilomètres autour d'un point précis, ce qui permet des services personnalisés à base de géolocalisation floutée. Et donc la differential privacy, la façon dont on doit bruiter les données pour se prémunir d'attaques, mais tout en rendant possible des services à valeur ajoutée, personnalisés, c'est un domaine de recherche très actif. Sur des données plus sensibles et plus riches, comme les données biométriques, par exemple, eh bien, c'est encore à l'étude, c'est une frontière de la recherche.
Voilà. Merci beaucoup pour cette intervention millimétrée. Merci, il me reste à remercier Marc Mossé et Laurent Massouli. Il y a une pause de quelques minutes. On respecte bien l'horaire pour pouvoir recommencer très très vite avec un nouveau keynote. Merci. À tout de suite.